France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Qu'est-ce que l'atlantisme? Est-il toujours vivant? La charte de l'Atlantique en 1941, le pacte surtout de l'Atlantique en 1949 était bien plus qu'une déclaration de principe pour la charte et une alliance militaire et de défense pour le pacte. Les vainqueurs des nazis par les armes ont aussi eu raison du communisme soviétique à l'usure. Aujourd'hui, le principal pilier de cette alliance de l'Occident, l'Amérique, fait défaut, renie non seulement ses alliés mais aussi ses idéaux. Enquête de politique se propose de refaire l'histoire de l'atlantisme. Nous tentons ce soir de déterminer si ce concept n'était qu'une parenthèse ouverte à la fin de la Seconde Guerre mondiale et refermée avec la seconde élection de Donald Trump. Pour nous guider dans cette histoire de 80 ans, nous sommes avec Isabelle Lebon, professeure de sciences économiques à l'Université de Caen, autrice des États-Unis au XXIe siècle en faits et en chiffres, coécrit avec Thérèse Rebière aux éditions Ellipse. Et nous sommes aussi avec Olivier Vivorca, historien, professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, auteur récemment des maîtres de la stratégie de Song Tzu à Warden, avec Benoît Durieux, c'est au Seuil.
Oui, le général Durieux.
Le général Durieux, au Seuil. Et puis de l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Vous avez écrit beaucoup de livres, mais celui-là est chez Perrin. Bonsoir Isabelle Lebon et Olivier Vivorca.
Bonsoir.
Bonsoir.
Le souci exclusif de la France est de rendre impraticable toute invasion de son propre territoire.
En réalité, qui a été l'allié des Américains de bout en bout, sinon la France de De Gaulle?
L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis, soyons honnêtes.
La menace qui me préoccupe le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure, c'est le recul de l'Europe.
Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître.
Voilà, 80 ans d'atlantisme en quelques petites secondes de son. Olivier Vivorca, comment définiriez-vous ce terme, ce concept d'atlantisme?
L'atlantisme, c'est au fond une très grande fidélité à l'égard des États-Unis, l'idée que la sécurité de son pays et plus généralement de l'Europe dépend du lien que l'on a avec Washington. Sachant que cette relation est réciproque, s'il y a un atlantisme européen, il y a aussi un atlantisme américain. L'Europe constitue une priorité pour les États-Unis et les États-Unis s'emploieront, en cas, à l'époque, d'agression soviétique, à défendre le vieux continent.
Ah, à l'écoute de votre définition, on mesure que l'atlantisme est très mal en point. Isabelle Lebon, quelle est votre définition, vous, de l'atlantisme?
Alors pour moi, l'atlantisme, c'est d'abord une communauté de valeurs, et donc des valeurs qui sont des valeurs démocratiques, des valeurs de liberté individuelle, de liberté d'expression. Et puis c'est également, pendant longtemps, et en tout cas jusqu'à la chute du mur de Berlin, eh bien une communauté et une vision identique ou en tout cas convergente sur les enjeux partagés, sur les enjeux stratégiques. Et ça, c'est quelque chose qui va, en tout cas, la communauté de valeurs reste longtemps. Par contre, la communauté stratégique, eh bien, la convergence stratégique a été remise en cause nettement par la chute du mur de Berlin, puis les attentats du 11 septembre, puisque, effectivement, à partir de ce moment-là, la définition de l'adversaire n'est plus véritablement la même des deux côtés de l'Atlantique.
À partir de 2003, au moment où il y a le 11 septembre 2001, puis 2003, même à l'ONU, cette divergence entre la France, l'Allemagne d'un côté, les États-Unis et peut-être l'Angleterre de l'autre sur la façon de réagir en Irak.
Même auparavant, puisque les Européens gardent la question de la Russie, en tout cas les Européens de l'Est, comme quelque chose de très prégnant et qui, évidemment, étant donné l'histoire, les inquiète. Mais à ce même moment, eh bien, les États-Unis se tournent non pas vers la Chine, comme c'est le cas dans la période actuelle, mais se tournent sur tout ce qui est à la suite des attentats du 11 septembre, véritablement sur cette menace que fait peser notamment l'islamisme sur ses propres intérêts.
Alors, tout le monde connaît la création du pacte atlantique en 1949, on va y venir, le début de l'OTAN. Mais déjà en 1941, alors c'est simplement entre les Anglais et les Américains, il y a une rencontre, c'est ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique, une rencontre en 1941, et il y a un contenu dans cette charte signée par les deux pays anglo-saxons, enfin américains et anglo-saxons, il y a un contenu idéologique. Je vous propose d'écouter une petite lecture d'un extrait par Franck Olivard de cette charte de l'Atlantique.
Leur pays ne cherche aucun agrandissement territorial ou autre. Ils s'efforcent, tout en tenant compte des obligations qu'ils ont déjà assumées, d'ouvrir également à tous les États, grands ou petits, vainqueurs ou vaincus, l'accès aux matières premières du monde et aux transactions commerciales qui sont nécessaires à leur prospérité économique. Ils désirent réaliser entre toutes les nations la collaboration la plus complète dans le domaine de l'économie, afin de garantir à toutes l'amélioration de la condition ouvrière, le progrès économique et la sécurité sociale. Après la destruction finale de la tyrannie nazie, ils espèrent voir s'établir une paix qui permettra à toutes les nations de demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et garantira à tous les hommes de tous les pays une existence affranchie de la crainte et du besoin.
Voilà, ce texte est important. Olivier Vivurca, vous allez nous dire pourquoi, et vous allez aussi relativiser. Mais il date donc de 1941, il est signé par les Anglais et par les Américains, c'est-à-dire le cœur de l'alliance qui va se battre contre le nazisme. Et on voit bien dans ce texte qu'on prend la mesure de ce qui s'est passé avec la montée du nazisme. Il est question de sécurité sociale même, donc on pourrait penser que c'est presque les prémices, comme il y avait dans le CNR, le Conseil National des Résistants, les prémices de ce qu'on doit faire après avec un État social ou un État-providence. Ce sont vraiment en pointillés. Roosevelt parlait des quatre libertés, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin, c'est important, et la liberté de vivre à l'abri de la peur, donc de la sécurité. Il y a, dans le texte qu'on vient d'entendre et l'énoncé de ces quatre libertés, quelque chose qui ressemble quand même aux valeurs occidentales de l'après-guerre, les Vivurca.
Oui, dans une large mesure. Cette charte de l'Atlantique est un texte à la fois important, mais dont il ne faut pas surestimer l'incidence. C'est un texte important parce que, quelque part, il fixe les buts de guerre de la Grande-Bretagne d'une part, des États-Unis de l'autre.
But idéologique.
Sachant que les États-Unis ne sont pas encore en guerre, nous sommes en août 1941, donc avant le 7 décembre de la même année, donc les États-Unis ne sont pas en guerre, mais ils sont, dirait-on, les alliés objectifs du Royaume-Uni. Donc cette charte de l'Atlantique, elle doit quand même expliquer au peuple, et notamment au peuple américain, si jamais, effectivement, il se trouve engagé dans cette grande épreuve qu'est la Seconde Guerre mondiale, il doit un petit peu expliquer pourquoi on se bat. Donc cette charte de l'Atlantique a cette fonction. C'est une charte aussi donc qui intervient en réaction à la Société des Nations, parce qu'il y avait aussi, pendant la Première Guerre mondiale, avec notamment les 14 points du président américain Wilson, l'idée de redéfinir un ordre international. Donc, il s'agit aussi de comprendre ce qui n'a pas marché.
De relancer l'idée qui n'avait pas marché.
Voilà, et donc d'essayer de définir un nouvel ordre mondial. Et si on peut considérer que cette charte de l'Atlantique est importante, c'est qu'au fond, elle a quelque part une triple postérité. Première postérité, c'est au fond, autour de ces valeurs, que peut se constituer un nouvel ordre international, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Il y a un fil rouge qui va unir, au fond, cette charte de l'Atlantique à la Déclaration des Nations Unies, puis ensuite à la conférence de San Francisco qui porte sur les fonds baptismaux l'Organisation Internationale.
Toute une série d'organisations du multilatéralisme, parce qu'on parle d'économie, on parle de social.
Alors, la seconde postérité, si vous voulez, c'est une postérité économique. Voilà. L'idée, au fond, que c'est la misère qui provoque le chaos, c'est la misère qui provoque les guerres. Et donc, la seconde postérité, c'est aussi une postérité qui sera celle du plan Marshall, 1947, l'idée qu'on va aider l'Europe occidentale à se relever de ses ruines, parce que sinon, eh bien, le terreau offert au communisme sera prospère et fécond. Et puis la troisième postérité, c'est une postérité militaire. On peut dire que l'OTAN est dans une certaine mesure le fils ou la fille de cette charte de l'Atlantique, tout simplement parce qu'au fond, les États-Unis et le Royaume-Uni se présentent en héros du monde libre, c'est-à-dire des peuples unis par des valeurs communes qu'ils entendent bel et bien défendre.
Mais Olivier Vurka, vous soulignez aussi que Churchill a obtenu que soient exclus les peuples colonisés de ces buts de guerre qui ont l'air très vertueux.
Alors, le problème, c'est que nous sommes ici dans une déclaration d'intention, ouais. Et cette déclaration d'intention, elle pose plusieurs problèmes. D'abord, elle est un peu limitée parce que Churchill affirme que cette charte de l'Atlantique et notamment le droit à l'autodétermination, ne vaut pas pour les peuples colonisés. Donc c'est déjà une entaille. Il faut quand même souligner que chez les peuples colonisés, notamment dans l'Empire britannique, cette charte de l'Atlantique suscite un énorme espoir. Il va faire au fond de Roosevelt le porte-parole de la décolonisation. On sait par exemple qu'en 1943, lorsqu'il se rend à Anfa, dans la banlieue de Casablanca, pour discuter avec Churchill, De Gaulle, Giraud, il va aller voir le sultan du Maroc et qu'il prononce des paroles extrêmement anticolonialistes. Donc il y a ce premier élément qui est une faiblesse, second élément qui est donc d'exclure les peuples colonisés, second élément qui est aussi une faiblesse, c'est qu'on est quand même dans des grandes déclarations d'intention. Et donc, les responsables de la propagande, quand on regarde les archives, sont un peu embarrassés à l'idée de vendre cette charte de l'Atlantique. Pour aller vite, c'est un peu faiblard.
Par rapport aux Russes, c'est ça ?
Voilà, tous les regards se tournent plutôt vers l'Union soviétique, dont le prestige est énorme, qui n'a pas subi la crise de 1929, qui est en train de vaincre la Wehrmacht dans les neiges de Stalingrad. Donc le prestige de l'Union soviétique est très élevé. Et en regard, on a cette charte de l'Atlantique qui, au fond, sans vouloir être caricatural, voilà, ressasse ce qu'on a déjà entendu, droit des peuples à disposer
de bonnes intentions.
Liberté, voilà, des bonnes intentions. Donc c'est faible là. Et puis le troisième élément, c'est que c'est la base, je l'ai dit, des Nations Unies. Donc l'Union soviétique va adhérer dans une certaine mesure à cette déclaration de principe et à ce catalogue de bonnes intentions, mais dans le même temps, adhérer ne veut pas dire respecter. Donc on a aussi ici les limites de ces grandes déclarations.
Isabelle Lebon, vous êtes professeure d'économie. Il y a dans la charte de l'Atlantique un aspect économique et social très important.
Oui, tout à fait. Effectivement, cet aspect de prospérité économique qui est fondamental, puisqu'on a vu après la Première Guerre mondiale, et on sait bien à quel point elle a amené à la Seconde, en essayant finalement de reconstruire un pays au prix des réparations qui étaient imposées aux perdants. Et donc, on se retrouve après la Seconde Guerre mondiale.
Fallait pas refaire l'erreur de Versailles.
Surtout pas refaire l'erreur de Versailles. Et au contraire, le plan Marshall va être là pour aider à la fois vainqueurs et vaincus en même temps à la reconstruction et leur permettre d'atteindre une prospérité économique. Et quoi qu'en dise dans la déclaration qu'on vient d'entendre le président Trump, eh bien les États-Unis sont tout à fait favorables à une alliance économique dans l'Europe dont ils préfèrent largement qu'ils fassent ensemble une économie prospère plutôt que la guerre.
C'est-à-dire que le pacte de l'Atlantique, on va y venir avec 49, mais le pacte de l'Atlantique est aussi un pacte économique. C'est pas simplement un accord de défense avec l'article 5.
C'est un accord de défense, l'OTAN. Mais il s'inscrit dans une architecture qui est une architecture d'ensemble. ONU 1945, Plan Marshall 1947, OTAN 1949.
Alors, 1949, c'est Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères français, qui représente notre pays à Washington pour signer le pacte de l'Atlantique, l'OTAN.
À trois reprises, la France a été envahie en 70 ans. La première fois, elle a été l'unique victime de l'agresseur. De 1914 à 1918, le flot submergeait la moitié de notre continent. La dernière guerre, enfin, débordait l'Europe. Le souci exclusif de la France est de rendre impraticable toute invasion de son propre territoire, toute invasion des États pacifiques. Notre but ne saurait se limiter à gagner une guerre qui nous serait imposée, une guerre qui, même victorieuse, laisserait une Europe ravagée, compromettre pour l'un d'entre nous, nous la perdrions tous ensemble.
Nous sommes toujours avec Isabelle Lebon et Olivier Vivorca et nous interrogeons sur l'atlantisme. L'atlantisme est-il toujours vivant ou mort? Le pacte atlantique, c'est 1949, on vient d'entendre Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères français. Isabelle Lebon, le ton du ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, grand européen, c'est un peu, ça rappelle le plus jamais ça. La guerre, c'est fini, ça ne peut plus marcher, et il ne faut plus de guerre. Tout le monde est perdant dans les guerres.
Tout le monde est perdant, tout le monde a été très nettement perdant, et l'Europe a perdu sa suprématie, de toute façon, au niveau mondial, avec les deux guerres du XXe siècle. Et donc, évidemment, on va avoir des Européens, à ce moment-là, aidés par ce plan Marshall qui permet qu'il n'ait pas besoin de se retourner les uns contre les autres, qui comprennent, il était temps, que la coopération les amènera à une prospérité collective plutôt qu'à une vengeance d'une guerre sur l'autre.
Alors ce plan Marshall, Olivier Vivorca, il était vécu comme une aubaine, un cadeau du ciel ou de l'autre côté de l'Atlantique, ou aussi comme une mainmise, un investissement un peu intéressé de la part des États-Unis en Europe?
Les deux, c'est-à-dire que tout dépend aussi de la position que vous avez sur le spectre politique. Les communistes ont dénoncé le plan Marshall et ont dénoncé aussi l'américanisation de la France. Une américanisation qui passe par le plan Marshall, mais qui passe aussi, il faut le rappeler, par le déploiement de bases américaines en France. Bon, donc tous ces éléments ont pesé. Il faut quand même souligner que le plan Marshall, dont la postérité est absolument immense, puisqu'on parle d'un plan Marshall pour les banlieues, d'un plan Marshall
pour
les
crèves. Oui, maintenant c'est devenu un terme voilà, un peu bateau.
C'est devenu un mantra. N'a pas du tout desservi les États-Unis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait pour les États-Unis la possibilité d'écouler leurs marchandises, donc des débouchés. Beaucoup de crédits étaient des prêts que les Européens ont dû rembourser. Donc n'imaginons pas non plus que l'oncle Sam a vidé ses poches par commisération pour une Europe meurtrie. Non, le plan Marshall a aussi servi les intérêts américains.
Oui, et aujourd'hui, quand on entend Donald Trump expliquer à Zelensky qu'il va falloir rembourser, est-ce que ce... Alors là, c'est pas du tout quand même l'esprit du plan Marshall. Là, c'est vraiment une captation.
Oui, là, c'est une captation, mais c'est comme si, au fond, Donald Trump demandait aux Français, aux Belges et aux Néerlandais de rembourser les frais du débarquement. Je veux dire, pourquoi pas d'ailleurs.
Ouais. Alors en France, le général de Gaulle était attaché à l'indépendance de la France, évidemment. Et donc, en 1966, il quitte le commandement intégré militaire de l'OTAN. On va l'écouter et on va expliquer ce que ça voulait dire à l'époque.
Si la France tient l'Alliance Atlantique toujours pour valable, elle reconnaît en même temps que les dispositions d'application ne répondent plus à ce qu'elle juge satisfaisant dans les conditions nouvelles, en raison de l'évolution des pays de l'Est. Le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. La garantie de sécurité, autant vous dire absolue, que donnait à l'ancien continent la possession par l'Amérique et par l'Amérique seule de l'arme atomique, de l'armement atomique, et la conviction où l'on était qu'en cas d'agression, elle emploierait cet armement sans restriction. Car depuis lors, la Russie soviétique s'est dotée d'un armement nucléaire capable de frapper directement les États-Unis. Ce qui a naturellement rendu pour le moins indéterminées les décisions des Américains quant à l'emploi éventuel de leurs bombes.
Voilà, le général de Gaulle, en 1966, donc, essaye de déterminer ce qu'on appellera plus tard une troisième voie. à mi-chemin, on verra plus tard, on verra tout à l'heure que c'est pas vraiment à mi-chemin, évidemment, entre la Russie soviétique à l'époque et les États-Unis. Il faut souligner aussi que les États-Unis menaient des guerres un peu partout en Amérique du Sud, ou en tout cas envoyaient des soldats, des hommes, des conseillers, et que la France ne voulait pas trop assumer ce cousinage avec les États-Unis. Isabelle Lebon, comment vous qualifieriez cette décision du général de Gaulle?
Alors, si on le regarde de maintenant, eh bien, on dirait que c'est le début d'une autonomie stratégique et donc d'avoir vraiment l'idée que la France va pouvoir avoir sa propre voix. Il faut se souvenir,
c'est le moment où
on n'en a pas parlé. Voilà, elle acquiert sa bombe, mais aussi elle a un siège à l'ONU. Et donc, elle va avoir une autonomie réelle stratégique grâce à la bombe et une autonomie réelle, puisque en ce qui nous concerne, ce n'est pas sous le commandement intégré de l'OTAN, mais effectivement, De Gaulle veut également se rapprocher d'un certain nombre de non-alignés, avoir une voix qui soit différente à l'ONU et pouvoir parler quelque chose qui n'est... avoir un ton qui n'est ni les États-Unis de l'époque, ni l'URSS.
Olivier Viurka.
Oui, De Gaulle a entièrement raison de rappeler que l'OTAN a été constituée en 1949 aussi pour mettre l'Europe occidentale sous le parapluie atomique européen, américain, à une époque où, il faut le souligner, seuls les États-Unis détiennent l'arme nucléaire. Bon, il se trouve que les tons ont changé. 1949, les Soviétiques accèdent à l'arme nucléaire, 1960 la France, 1964 la Chine, et donc De Gaulle, fort de cette indépendance, ne veut pas que, au fond, l'armée française, le dispositif défensif français, soit intégré dans le commandement militaire, mais il reste effectivement
à l'OTAN.
Ce qui veut dire que
De Gaulle ne quitte pas l'OTAN, parce que souvent
on dit l'OTAN. Non. Non.
Jusqu'en 2009 où nous réintégrons le commandement intégré de l'OTAN. Ça veut dire quoi?
Et De Gaulle est un allié fidèle des États-Unis. Oui. Lorsque, en 1962, au moment de la crise de Cuba, on lui présente les documents qui montrent que les Soviétiques...
L'ambassadeur des États-Unis vient à l'Élysée.
Voilà.
Et lui dit, je vous montre les photos.
Voilà. Et De Gaulle dit, je ne veux même pas les voir, nous sommes de votre côté. Donc il a été toujours un allié fidèle des États-Unis, il s'est toujours rangé derrière les États-Unis, mais en même temps, il veut mener une politique d'indépendance nationale. Je voudrais maintenant formuler deux remarques. Premier élément, on parle très souvent du caractère visionnaire du général De Gaulle. Il y fait allusion dans l'entretien, l'interview que vous citez. Il a quand même l'idée...
Michel Droit, 1966.
Voilà, il a quand même l'idée qu'on va pouvoir détacher les pays de l'Est de la tutelle de Moscou. Donc il va se rendre en Roumanie. Bon, et là, c'est bien évidemment une illusion d'imaginer que Ceausescu va ruer dans les brancards. Donc là, il y a une certaine illusion. Le second élément qui me paraît important, c'est qu'on fait très souvent de l'OTAN l'idée d'une garantie automatique des Américains. Mais quand vous lisez attentivement l'article 5, vous vous rendez compte que l'usage de la force est autorisé, mais qu'il n'est pas obligatoire. En d'autres termes, si un pays de l'OTAN est agressé, les autres pays ont la possibilité d'intervenir.
Ah oui, c'est pas
ce n'est jamais une obligation.
On croit souvent que ça l'est, c'est
oui,
vrai.
Oui, et ça, il faut bien le souligner, parce qu'on a un peu l'impression, notamment aujourd'hui, qu'un embrasement pourrait se produire par ce qu'on appellera rapidement un effet domino. Ce n'est pas le cas. Et donc, et c'est ce que dit le général de Gaulle, tout le problème est de savoir si, effectivement, les Américains, jusqu'à la chute du mur, vont considérer qu'une agression contre un pays européen, en gros l'Allemagne, va provoquer une réplique. Et les Allemands n'en sont pas sûrs. Les Allemands n'en sont pas sûrs, ils ont très très peur de ce qu'on appelle le découplage. En d'autres termes, est-ce que les Américains vont effectivement vouloir mourir pour les Poldev? Rien n'est sûr. Mais en même temps, il y a un principe d'incertitude, renforcé par le fait que vous allez avoir des vecteurs atomiques américains implantés en Italie, en Allemagne, donc qui créent de l'incertitude pour Moscou. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, rien ne nous dit que les Américains aurait volé au secours d'une Allemagne de l'Ouest, agressée par le bloc soviétique.
Ah oui. Alors, il faut souligner que dans le débat actuel, ceux qui considèrent qu'on est un peu trop agressif avec les Russes, qu'on devrait être un peu plus conciliant avec les Russes, qu'on devrait écouter ce qu'ils disent et peut-être négocier, forcer Zelensky à négocier. Ils invoquent souvent cette troisième voie de De Gaulle, comme si effectivement De Gaulle était à équidistance entre les Russes et les Américains. Et je voudrais vous faire écouter cette autre intervention du général De Gaulle en 1965, donc on est trois ans après l'épisode que vous avez évoqué, Olivier Vivurca, à propos de la crise des missiles de Cuba, et le général De Gaulle dit « je suis du côté des Américains, quoi qu'il arrive ».
En réalité, qui a été l'allié des Américains, de bout en bout, sinon la France de De Gaulle? Il n'y en avait pas eu d'autre. Et le cas échéant, si le malheur devait arriver et si la liberté du monde était en cause, qui serait automatiquement les meilleurs alliés de nature, sinon la France et les États-Unis, comme ils l'ont été souvent en pareil cas?
Voilà, comme ils l'ont été souvent, les meilleurs alliés, la France, l'Europe et les États-Unis. La France et les États-Unis, est-ce toujours le cas? C'est la question que nous nous posons ce soir avec Olivier Vivurca et Isabelle Lebon. On se retrouve dans quelques minutes.
Overcoat to tell you the night is, but life is a mystery, no key to crack the mystery. When I woke up, you were gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? Faced with the bow, headed beauty, only I receive it how? Clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I am stretched out beneath the dome and dreaming. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? The bowed headed beauty, only I receive it how? Clearly the last transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line.
Flora Hibbard, Code sur France Inter.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Et nous sommes toujours en direct jusqu'à 19h avec Isabelle Lebon, professeure de sciences économiques à l'université de Caen, et Olivier Vivurca, historien, professeur à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Et donc, on se demande, que devient l'atlantisme? Respire-t-il toujours? Est-il toujours vivant? Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et de l'actualité avec Donald Trump.
L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis, soyons honnêtes. Nous avons pris la décision et nous l'annoncerons prochainement, ce sera 25% d'une manière générale. Et ça concernera les voitures et toutes les autres choses. L'Union européenne est un cas différent de celui du Canada, il profite de nous d'une manière différente. Il n'accepte pas nos voitures, il n'accepte pas l'essentiel de nos produits agricoles.
Donald Trump, le 27 février dernier à la Maison-Blanche. Isabelle Lebon, vous êtes professeure d'économie. Comment vous réagissez à cette évolution et à cette violence verbale? Nous profitons des États-Unis, nous n'acceptons pas leurs produits.
Je ne vais même pas commenter le style qui est une posture et finalement j'en viens à espérer que rapidement dans son mandat nous ne commenterons même plus ces outrances puisqu'on finira par s'y habituer tout simplement.
Oui mais enfin il y a les outrances et puis il y a les 25%
voilà,
quand même.
Il y a les 25%. Par contre sur le fond, il n'y a tout simplement plus de différence et en tout cas le président Trump ne fait pas de différence entre ceux qui sont ses alliés. Et c'est-à-dire le Canada, l'Europe au sein de l'OTAN et ceux qui sont des adversaires, qui pourraient être des adversaires, puisqu'il va imposer des droits de douane tout aussi bien aux Européens qu'aux Chinois, même si les Chinois sont actuellement subissent des droits de douane plus importants. Mais 25%, c'est colossal. C'est colossal pour l'Europe, c'est encore beaucoup plus colossal pour le Canada, dont il ne faut pas oublier que 75% des exportations partent en direction des États-Unis, qui sont évidemment leur seule frontière terrestre, au risque de les mettre à genoux. Et on parlait tout à l'heure de l'absence de volonté de conquête. N'oublions pas que ça s'accompagne de la volonté de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Justin Trudeau étant qualifié de gouverneur du Canada et de s'approprier aussi le Groenland.
Est-ce que vous faites partie, Isabelle Lebon, de ceux qui pensent que il fait des deals et il faut prendre que c'est un dealmaker et donc il en rajoute des tonnes parce que finalement un deal, le seul risque qu'on doit accepter quand on fait un deal avec quelqu'un, c'est que le deal ne se fasse pas. Là, on risque de se faire agresser en retour si on ne fait pas le deal. C'est plus proche de la mafia que du deal, non ?
Alors, c'est effectivement quelqu'un qui fait des deals, et on l'a vu cette semaine, notamment...
Des deals avec un pistolet sous la tempe.
Oui, non, mais avec le Canada, c'était très intéressant, puisque 25% le mercredi, qui sont reportés à un mois le jeudi. Donc, c'est une manière simplement d'avancer des pions, de faire des allers-retours, de voir si ça pose
des problèmes. Ces derniers jours, d'ailleurs, il a fait
problèmes.
Des allers-retours.
Voilà, ouais. Tout à fait. Ça pose des problèmes dans sa propre économie. Je pense que c'est un homme d'affaires, et il réagit comme tel. C'est oublié un peu vite pour ce qui le concerne qu'il y a une économie derrière et qu'à faire des allers-retours comme ça, sans doute que dans le domaine de la finance, ça permet peut-être d'avoir un meilleur deal et d'avancer des pions, à part que dans l'économie, ça bloque l'investissement, ça bloque l'embauche et ça a des effets réels. Beaucoup plus. Alors, inflationniste que ça, c'est quand on met les droits de douane, mais même simplement le fait de faire des allers-retours de ce type-là, eh bien, bloque le développement de l'économie et avant tout de l'économie américaine.
Donc, on peut dire, Olivier Vivurca, que d'un point de vue économique, puisqu'on a vu dans la première partie de l'émission que le pacte atlantique avait un aspect économique, le pacte atlantique est mort. Est-ce qu'il est mort aussi? Est-il simplement cliniquement mort, complètement mort, ou est-ce qu'il est simplement dans le coma et il peut se réveiller dans le domaine de la défense et de l'alliance militaire?
Alors, je n'en sais rien, mais comme le rappelait Isabelle Lebon, l'atlantisme reposait sur une communauté de valeurs, et cette communauté de valeurs, on ne la voit plus aujourd'hui subsister. Les valeurs qui sont celles de l'Amérique de Trump ne sont plus celles du vieux continent, en tous les cas jusqu'à présent. Alors ensuite, est-ce que le pacte atlantique est mort ? J'ai envie de dire que c'était quand même un pacte dirigé d'abord et avant tout contre l'Union soviétique. À partir du moment où Moscou et Washington s'entendent sur le dos des Européens, je ne vois pas très bien, si vous voulez, quelle serait la valeur d'une alliance défensive. Alliance défensive, soit, mais contre qui ?
Donc Isabelle Lebon tout à l'heure nous disait que finalement la fin du pacte atlantique c'était plutôt la chute du mur puisque effectivement à partir de 1949 et du début de la guerre froide, la justification du pacte atlantique c'était de contenir la Russie soviétique et communiste. Donc si on se pose la question aujourd'hui de la mort du pacte atlantique, on se trompe, c'était en 89.
Oui, possiblement, à cette différence près qu'on ne se trompe pas. Si l'on voit que la Russie, qui n'était plus un problème au moment de la chute de Berlin et au moment de Boris Yeltsin, est redevenue un problème, et notamment les Européens en ont, senti l'urgence au moment de la crise géorgienne en 2008. Donc à partir de ce moment-là, oui, ça devient un problème. Donc une alliance défensive, oui, mais sur quelle modalité, selon quelle modalité et contre qui ? Voilà la question qui est posée.
Oui, parce qu'on aurait pu, penser, au début, donc, l'Alliance Atlantique était dirigée contre l'Union Soviétique qui était communiste, mais à partir du moment où la Russie a des velléités expansionnistes et a un rapport à la liberté et à la démocratie qui n'est pas le nôtre, on aurait pu penser que le poutinisme de ces dernières années aurait réveillé la justification du pacte atlantique. Et ça n'est pas le cas finalement. Parce que les États-Unis ont changé de camp, Isabelle Lebon.
Alors, parce qu'avant tout, il y a une différence et une modification depuis très longtemps. C'est ce que l'on appelle le pivot stratégique qui a eu lieu sous Obama, mais dont on avait déjà les prémices sous George Bush, qui a recentré les intérêts des États-Unis sur l'Indo-Pacifique bien davantage que vers l'Atlantique. Il suffit de regarder une carte du monde pour voir que les intérêts américains sont dans le Pacifique Nord, en tout cas tant qu'il n'y a pas le Groenland sous leur contrôle, bien davantage que dans l'Atlantique. Et on voit bien que les États-Unis ont véritablement désigné comme adversaire la Chine, comme leur principal, mais aussi leur seul adversaire. Et si on veut rationaliser ce qu'il se passe avec l'axe Trump-Poutine, on peut tout à fait le rationaliser en disant qu'on est vraiment dans une inversion par rapport à ce que Nixon avait fait au début des années 70 pour essayer de découpler en tout cas la Chine de l'Union soviétique à l'époque. Et véritablement aujourd'hui, Donald Trump voudrait découpler la Russie de la Chine qui est son adversaire. À mon avis, ça n'arrivera pas.
Est-ce qu'on a une part, nous, Européens, de responsabilité ? Parce que finalement, quand on entend le débat aux États-Unis et qu'on résume les choses ainsi, comme certains le font, c'est-à-dire finalement l'Europe, 500 millions d'habitants, demande aux États-Unis, 340 millions d'habitants, de payer largement pour les couvrir nucléairement contre la menace de 140 millions d'habitants, les Russes, qui sont les voisins des Européens et pas des États-Unis, c'est vrai ? Et ça, la France porte ce message depuis un certain temps. C'est vrai que là, on a loupé quelque chose, non, Isabelle Lebon ?
Sans doute pas la France principalement, sans doute pas le Royaume-Uni non plus, mais bien davantage un certain nombre de pays. En fait, en disant ça, on pense à l'Allemagne, qui ont quand même beaucoup touché ce que l'on appelle les dividendes de la paix. Il suffit de regarder les statistiques des dépenses au sein de l'OTAN hors États-Unis pour se rendre compte. Alors très récemment, en 2023 et 2024, il y a une accélération extrêmement forte des dépenses de 10% en 2023, de près 18% en 2024 de l'OTAN hors États-Unis. Mais pendant très longtemps, eh bien, des pays comme l'Allemagne vont se retrouver avec des dépenses militaires qui sont autour, à peine au-dessus de 1 point de PIB, c'est-à-dire très loin des États-Unis qui dépensent 3 points de PIB. Et donc, alors, à juste titre, c'est difficile à dire, mais on peut comprendre que les États-Unis aient eu le sentiment... Voilà, mais il faut quand même penser que les dépenses militaires américaines sont quand même bien davantage touchées, tournées vers le Pacifique que vers l'Atlantique également.
Olivier Vivorca, l'Allemagne a une position particulière depuis 1949, c'est le grand vaincu et en même temps grand bénéficiaire du plan Marshall, totalement sous la coupe américaine s'agissant de sa défense, et d'ailleurs elle ne demandait pas jusqu'à maintenant autre chose, pour des raisons historiques qu'on a bien compris. Ces dernières heures, les Allemands, les sociodémocrates allemands et les conservateurs allemands ont trouvé visiblement un accord et M. Merz va devenir le prochain chancelier et il a un discours radicalement différent de ses prédécesseurs, surtout parmi son parti et la droite allemande, s'agissant de l'Alliance Atlantique et du rôle de l'Allemagne dans cette alliance.
Oui, c'est une rupture fondamentale parce que l'Allemagne fédérale, et notamment à l'époque du chancelier Adenauer, donc entre 1949 et 1963, a été extrêmement atlantiste. Ce qui veut dire que Bien entendu, elle a profité du parapluie nucléaire américain, de la protection que les Américains lui offraient par le déploiement de troupes, ce qui est une chose, mais de l'autre, elle s'est totalement et constamment alignée sur les États-Unis, ce qui veut dire qu'elle a refusé aussi de développer une Europe de la défense, de développer une Europe de la politique étrangère, etc., etc., tant son alignement sur Washington était total.
Et c'est qui lui permettait d'ailleurs de consacrer ses crédits à l'économie, à sa puissance économique.
Absolument, absolument. Et c'est ça qui vient de changer, puisque, au fond, l'Allemagne vient de prendre conscience, au fond, de la vulnérabilité du lien transatlantique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà des doutes, il y avait déjà des inquiétudes sur le découplage, est-ce que les Américains se battraient pour, sur également les risques que faisait courir l'intégration dans le pacte atlantique. Rappelons-nous le déploiement des Pershing, 1983, oui. En réponse au déploiement des missiles à moyenne portée SS-20 que l'Union soviétique avait implanté à partir de 1977. Donc il y a toute une partie des Allemands qui auraient bien plus préféré être neutres, neutralistes, d'accord, plutôt que d'être transatlantiques, plutôt que d'être liés à Washington. Donc cette tentation, elle a aussi existé en Allemagne. Il n'en reste pas moins vrai que pour l'Allemagne en général et pour la CDU en particulier, c'est effectivement une révolution copernicienne.
Alors, le mot atlantiste, c'était aussi un mot de la politique française, soit un stigmate, soit parfois une insulte. Et c'est assez étonnant, Olivier Vivorca, de regarder le spectre politique français des années 80, 90, 70, et de voir qui était atlantiste ou pas, finalement, les gaullistes. L'était de fait, et on a entendu le général de Gaulle, mais avait quand même il y avait la teinte de cette histoire de troisième voie, cette histoire d'indépendance et d'autonomie stratégique de la France. Et puis l'extrême droite n'existait pas, les communistes ne l'étaient pas. Les plus atlantistes, ça peut paraître assez paradoxal aujourd'hui, étaient les centristes et les socialistes.
Oui, tout à fait. François Mitterrand avait la réputation d'être atlantiste. Et au fond, c'était effectivement...
Comme beaucoup d'hommes de la 4e, d'ailleurs.
Voilà, ben voilà, c'était une politique qui était la politique de la 4e République. Donc, il a fallu concilier pour les gouvernants qui succèdent au général de Gaulle, à la fois le message que porte la France, c'est-à-dire un message d'indépendance nationale, qui est encore aussi, je crois, aujourd'hui, le message national, avec la solidarité, avec, d'une part, les États-Unis, et de l'autre, le pacte atlantique. Voilà, et c'est ça qui, au fond, a quand même assez bien fonctionné, même si vous avez eu un certain nombre d'accrocs par rapport, dans la relation Washington, je pense par exemple à la guerre contre l'Irak.
Alors, il est 18h52, si à cette heure-ci, après 45 minutes d'émission, vous pensez que l'atlantisme respire encore un petit peu, écoutez ceci, J.D. Vance, le vice-président américain. C'était le 14 février dernier.
La menace qui me préoccupe le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure, c'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales. Des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. La liberté d'expression est en recul au Royaume-Uni, comme dans toute l'Europe.
Voilà, l'attaque de... Enfin, la conception de la liberté d'expression par, finalement, J.D. Vance, qui est un partisan de l'oligarchie et de la plutocratie américaine aujourd'hui. Isabelle Lebon, on est sur deux mondes totalement différents, en Europe et aux États-Unis.
Oui, c'est exactement ce que disait Olivier Vivorca, c'est-à-dire que véritablement, ce qu'il nous restait ensemble, c'était la communauté de valeurs, puisqu'on a vu qu'on avait des intérêts stratégiques qui étaient devenus forcément divergents, en tout cas géographiquement, et cette communauté de valeurs est en train d'être gommé par cette nouvelle administration. Après, voilà, ça ne dure normalement jamais que 4 ans et il ne faut pas non plus jeter l'ensemble de la coopération qui a été longtemps très importante et qui devrait le rester. Et les politiques européens le rappellent, à mon sens, à raison, entre le peuple américain et les peuples européens.
Olivier Vivurca, c'est une rupture conjoncturelle parce que Donald Trump est un homme politique très particulier, que le populisme a gagné et la normalité, la raison va revenir ou c'est une rupture historique ?
Ah, ça, je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. On voit bien quand même que les États-Unis ne fonctionnent plus de la même manière que l'Europe. Ça, c'est, je crois, un élément important. Mais il faut voir aussi que Trump suscite des échos en France, suscite des échos en Europe. Et c'est aussi l'un des problèmes. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la droite, une partie des médias qui, au fond, est d'accord avec Trump.
Les médias qui appartiennent à M. Bolloré, là, par exemple, sont totalement trumpistes et poutinistes depuis quelque temps.
Oui. Par exemple, et au fond, ce qu'ils veulent, c'est une dérégulation. Voilà. Alors, aux États-Unis, la régulation a toujours été moins forte qu'en Europe. Et en France, au contraire, et en Europe en général, vous avez une régulation sur, je sais pas, la diffamation. Voilà, on ne peut effectivement pas tout dire, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, c'est la porte ouverte quand même à des tensions. Et lorsqu'on voit le niveau de violence aux États-Unis comparativement au niveau de violence qui existe en France, on est plutôt heureux. Précisément, d'avoir ces garde-fous.
Alors, pour terminer, je voudrais vous faire écouter Claude Malhuret, sénateur Horizon français, qui a fait un discours retentissant et qui, paraît-il, fait beaucoup de bruit aux États-Unis et est diffusé par les démocrates, cité par les démocrates. Et là, vous allez pouvoir juger du divorce.
Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis, et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Jamais dans l'histoire un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Nous étions en guerre contre un dictateur. Nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître.
Même le laisser finir. Hein,
voilà. Alors donc Claude Malhuret au Sénat qui parle de Trump comme un traître. Donc la rupture est consommée. Je vous remercie Isabelle Lebon et Olivier Vivurca. Cette émission est réalisée par Maria Pasquet, préparée avec Christophe Imbert, archive sonore Franck Olivard, attaché de production Emma Bouvier et à la technique aujourd'hui Guillaume Ficheux, à la programmation musicale Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de Politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez, à la page de l'émission, sur le site de France Inter, nous suggérer des thèmes, des ismes à explorer. D'ailleurs, merci à Claire Bayeux qui avait eu l'idée de l'atlantisme. On l'avait eu aussi, mais enfin, merci à Claire Bayeux. Vous connaissez le principe, on essaie dans Enquête de Politique depuis septembre de prendre une thématique au cœur du débat pour tenter de la définir, d'en faire l'historique. On continue aussi à explorer des ismes, des idées, les phénomènes politiques. C'est ainsi que nous préparons en ce moment pour les semaines qui viennent. Et ce sont aussi des demandes d'auditeurs. Le masculinisme, l'oligarchisme, la ploutocratie. Et pour finir, un petit mot de soutien à Jean-Michel Apathy, qui a été insulté, vilipendé par toute la bolosphère, les médias Bolloré dont on parlait tout à l'heure, une partie de la semaine dernière, son tort, avoir dit sur RTL la vérité sur les exactions perpétré par la France pendant les 130 ans de la colonie française en Algérie. Et ce n'est pas parce que la dictature algérienne ne cesse d'utiliser ce passé à des fins de politique intérieure que nous ne devons pas dire la vérité historique. Il y a maintenant un consensus universitaire sur la question et le fait que les journalistes sur certaines antennes ne peuvent pas le rapporter, en faire part, sans subir un acharnement de la part des médias qui ont décidé de prendre de la distance avec la réalité factuelle ou historique, journalistique, établie, prouve que, eh bien, cet effet prouve que notre pays peut se trouver sur la pente de la trumpisation. Petit salut donc amical, cher Jean-Michel. Ici, nous continuons, c'est promis, à tenir compte de la recherche scientifique universitaire pour que les débats aient lieu sur des bases saines et dépolarisées. La liberté d'opinion, disait Hannah Arendt, est une farce si l'information se fait sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet de débats. Je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.